Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui les explications données par les Pères sur le chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Matthieu. Donc, dans le fichier électronique en PDF sur le site, dans le fichier donc qui couvre les chapitres 16 à 20, c'est à la page 8. Donc cet évangile, ce chapitre d'évangile couvre d'abord au début une théophanie de notre Seigneur Jésus qui manifeste une fois de plus sa divinité avec l'apparition d'une partie de sa divinité, dévoile une partie de sa divinité au sommet du Tabor. Il avait pris avec lui Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean. Donc on voit d'abord très bien que c'est clair dans l'évangile, notre Seigneur Jésus-Christ aime tous les apôtres bien sûr, mais il y en a certains qu'il aime plus que d'autres. Il n'y a pas d'égalité entre les apôtres. Il aime davantage Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, on verra pourquoi, avec les pères. Et il va se transfigurer devant eux. Voilà le texte. Chapitre 17, versets 1 à 4. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne, c'est le Tabor. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Il est évident que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ne va pas dévoiler totalement sa divinité. S'il apparaissait dans toute la gloire de sa divinité, littéralement, les apôtres auraient été tués par cette divinité dans le sens qu'on ne peut pas ici-bas voir Dieu sans mourir. Il faut attendre d'être mort pour voir Dieu. Il faut attendre d'avoir une séparation entre notre corps et notre âme, et à ce moment-là, notre âme peut voir Dieu au ciel. Mais ici-bas, ce n'est pas encore possible. Cependant, notre Seigneur, pour renforcer la foi des apôtres, et aussi on va voir pour les préparer aux souffrances de la passion, il savait très bien que, comme il est Dieu, il sait tout, il savait que pendant sa passion, les apôtres allaient être scandalisés justement, parce qu'ils allaient voir que l'humanité est crabouillée par la passion, ils allaient oublier cette divinité. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va dévoiler une toute petite partie, un petit pan de sa divinité. Et c'est ce qui est traduit par cette phrase, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Beaucoup pensent que c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle en tant que tel. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, il aurait dû, strictement parlant, apparaître tout le temps avec cette divinité. Comme un soleil en plein ciel. Et imaginez que nous soyons juste devant le soleil. Bon. Eh bien, on ne peut faire qu'une seule chose devant le soleil, c'est fermer les yeux pour ne pas être brûlé par le soleil. Et bien, imaginez que nous soyons devant la divinité, ici-bas, on ne peut pas voir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, donc on est obligé littéralement de fermer les yeux. Il y a certains passages de l'Évangile sur lesquels les pères se sont plus appuyés que sur d'autres. Et ceci est un passage. Donc, sur le polycopier, j'ai mis pas mal de textes justement venant des pères, pages 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, nous allons un petit peu voir ensemble donc ces textes magnifiques des pères de l'Église. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ veut étouffer, nous disent les pères, tout sentiment humain d'envie chez les autres disciples. Donc, il vient d'annoncer à Saint-Pierre qu'il serait le premier pape. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai au futur, je bâtirai mon église et les forces de l'enfer ne prévendront point contre elle. Il veut, par ce retard de quelques jours, puisqu'il a attendu 6 jours entre cette manifestation de sa volonté à Saint-Pierre et la transfiguration au sommet du Tabor, 6 jours se passent. Il veut par ce retard, nous disent les pères, étouffer tout sentiment humain d'envie dans les autres disciples et exciter dans l'âme de ceux qu'il doit prendre avec lui un plus vif désir et le soin d'une préparation plus parfaite. Donc notre Seigneur Jésus-Christ prépare en quelque sorte psychologiquement ses apôtres à comprendre, au moins en partie, que c'est un mystère, l'union de la divinité et l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le cours que je donne sur la somme théologique de saint Thomas, actuellement nous sommes dans le début de la tertia pars, et dans cette partie de la somme théologique de saint Thomas, saint Thomas aborde le mystère du verbe de Dieu fait chair, hein, du verbe incarné. Eh bien, l'Église explique justement avec saint Thomas à quel point nous avons dans la même personne de notre Seigneur Jésus-Christ une parfaite nature humaine et une parfaite nature divine. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas une espèce de nature mélangée à la fois de divinité et d'humanité. Il y a deux natures en lui. Une nature divine parfaite, une nature humaine totale, complète. Ce n'est pas un mélange des deux. Une personne, deux natures. Et parce qu'il y a cette double nature en lui, notre Seigneur Jésus-Christ, par la nature divine, peut nous sauver, par la nature humaine, peut mourir, souffrir et mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Et donc, c'est un mystère tellement profond qu'il y a eu, au cours de l'histoire de l'Église, des tas d'hérésies, justement, soit ceux qui insistaient trop sur l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ et qui oubliaient la divinité. Ça, c'était par exemple l'hérésie d'Arius, qui considérait que notre Seigneur Jésus-Christ n'était que la première des créatures. Soit, au contraire, ceux qui insistaient trop sur la divinité et qui oubliaient l'humanité. C'était le cas, par exemple, des docétistes qui prétendaient que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas vraiment une nature humaine et donc les souffrances de la passion n'étaient qu'apparentes. Non, il faut garder les deux choses. Il faut garder les deux choses. Notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il faut aussi comprendre une deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il y a une union très étroite entre le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ s'incarne pour mourir. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ s'incarne pour mourir en tant qu'homme, il s'incarne aussi pour, en tant que Dieu, nous sauver. Rabban Mor, un autre père, explique que le nombre 6 des 6 jours d'attente n'est pas mis ici sans raison. C'est après 6 jours écoulés que le Sauveur manifeste sa gloire, figure de la résurrection qui doit avoir lieu à la fin des 6 âges de l'homme. Donc il y a d'autres explications données par d'autres pères, par exemple par Origène. Comme ce monde visible a été créé après le nombre complet de 6 jours de la création, celui qui s'élève au-dessus de toutes les choses du monde peut monter sur cette montagne élevée pour y contempler la gloire du Verbe de Dieu. Donc ces 3 disciples, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, que Jésus prend avec lui, figurent l'élection future de tous les peuples qui descendent de la triple souche de Sem, de Cham et de Japhet, donc les enfants de Noé, donc tous les hommes. Ils descendent bien sûr d'Adam et Ève, mais aussi ils descendent d'une certaine façon de Noé. D'autres pères font remarquer que notre Seigneur ne prend avec lui que 3 disciples, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Autre explication que j'aime bien, ceux-là seuls qui conservent dans une âme pure la foi en la Sainte Trinité jouiront alors de l'éternelle vision des cieux. Vous voyez, les trois apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, représentent la Sainte Trinité. Donc notre Seigneur les conduit tous les 3 sur une haute montagne. Et là, une belle explication des pères. Il enseigne à tous ceux qui désirent arriver à la contemplation de Dieu qu'ils ne doivent pas rester plongés dans les vils plaisirs des sens, mais s'élever toujours par les affections de leur cœur jusqu'au bien invisible des cieux. Donc, ce mont Tabor sur lequel notre Seigneur Jésus-Christ va se transfigurer représente, d'après les Pères, la vie illuminative et la vie unitive surtout, c'est-à-dire la montée vers le ciel de la grâce, de l'âme qui est sous la grâce du bon Dieu. Quand la grâce du bon Dieu agit dans une âme, elle va monter cette âme. Elle libère l'âme, si vous voulez, du poids des choses de ce monde. On coupe le fil à la patte qui empêchait l'oiseau de voler. Du coup, l'âme peut s'élever vers le bon Dieu et monter au Tabor. Donc le Tabor représente l'union de l'âme avec notre Seigneur Jésus-Christ, d'une part. Et d'autre part, le Tabor représente aussi l'union définitive de l'âme avec notre Seigneur Jésus-Christ, en conséquence de la vie unitive, à savoir la montée au ciel. Donc d'abord la montée dans la grâce du bon Dieu, le passage d'une vie, je dirais, d'une vie péchée à une vie en état de grâce, passage en quelque sorte de la vie purgative à la vie illuminative, mais aussi le deuxième passage, le passage de la vie illuminative à la vie unitive, c'est-à-dire le passage à une vie parfaite, à savoir la vie en état de grâce constante. Et donc si je veux voir Dieu, première chose à faire, c'est quitter le bas-monde, donc quitter le pied de la montagne et monter vers la montagne, monter vers le sommet de la montagne. C'est ça ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, ce que signifie notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il ne se transfigure pas au pied de la montagne, mais il se transfigure au sommet de la montagne. Le Père explique d'une autre façon, voilà leur texte, Jésus veut apprendre aussi à ses disciples à ne point chercher la gloire de la divine clarté dans les basses régions de ce monde, mais dans le royaume de la félicité céleste. Il les conduit donc à l'écart, parce que les saints sont ici-bas séparés des méchants par les dispositions de leur âme et l'intention de leur foi, et qu'ils en seront complètement séparés dans le siècle futur. Bien encore, parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu de vie. On voit très bien, même au niveau des apôtres. Ça ne veut pas dire que les autres apôtres sont condamnés, bien sûr que non. Mais il y a 12 apôtres et notre Seigneur Jésus-Christ va choisir, prendre parmi ces apôtres simplement un quart d'entre eux, donc 3 sur 12, pour les monter vers le calvaire. Ce qui explique pour les apôtres qui n'ont pas encore tout compris, ils sont encore assez loin du temps de la Pentecôte, ils vont avoir l'infusion du Saint-Esprit, ce qui explique que les apôtres parfois se disputaient entre eux, dans toute lettre dans l'Évangile, pour savoir lequel des trois était le plus grand. Et on peut comprendre ça humainement parlant, parce que les autres apôtres pourraient se dire, c'est évident que lorsque les Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean sont redescendus du calvaire, ils ont dû expliquer aux autres apôtres qu'est-ce qui s'est passé. Ben oui, on a vu notre Seigneur Jésus-Christ, son visage est venu resplendissant comme le soleil, ses vêtements sont devenus blancs comme la neige, on a vu même Moïse et Élie qui étaient à côté, on a entendu la voix de Dieu le Père qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances ». Et les autres apôtres ont dû se dire, ils sont humains, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dû se dire « Mais pourquoi nous on l'a pas vu comme ça ?» Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, justement, explique que toutes les âmes sont différentes. Il ne faut pas jalouser les âmes. À tel point que cette jalousie des grâces d'autrui est un péché contre le Saint-Esprit. Un péché donc qui empêche la sanctification. Donc, si le visage du Seigneur est devenu brillant comme le soleil, et que le visage des saints doit aussi briller un jour, comme cet as, faut-il en conclure que la gloire du Seigneur et celle des serviteurs auront le même éclat? Non, sans doute. Et comme rien dans la création n'approche de l'éclat du soleil, les saintes écritures, pour nous donner une idée de la résurrection future, nous disent que le visage du Seigneur resplendit comme le soleil et que les justes brilleront eux-mêmes un jour comme cet astre. De même que le soleil, si vous voulez, qui amène la vie au monde, qui amène la chaleur au monde, qui amène la lumière dans le monde, de la même façon, si vous voulez, notre Seigneur au ciel sera comme le soleil de justice pour toutes les âmes des élus. Mais à la différence, si vous voulez, avec la vie d'ici-bas, ici-bas nous ne pouvons pas regarder le soleil quand il y a une éclipse de soleil ou quand il y a en plein jour, quand il fait beau, vous ne pouvez pas regarder le soleil dans les yeux, vous allez vous brûler les yeux. Eh bien, il faut baisser, fermer, cligner les yeux justement pour ne pas être ébloui par le soleil. Bien, au ciel, on pourra voir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est représentée par ce soleil, sans avoir à cligner les yeux et à baisser la tête. Mais on pourra faire ça qu'au ciel, pas ici-bas. C'est pour ça qu'ici-bas, les apôtres ne peuvent pas voir encore notre Seigneur Jésus-Christ, et ils vont devoir baisser les yeux immédiatement. C'est au verset 6, les disciples, le voyant, l'entendant, tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande crainte. On verra ça après. Et ce passage de la transfiguration est très important parce qu'il rassure aussi notre foi. Nous aussi, on est un peu comme les disciples, on a du mal à croire, on a du mal à suivre notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'on comprend vaguement que pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut souffrir. Pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut se renoncer à soi-même, il faut prendre la croix sur les épaules et le suivre. Alors, on est un peu hésitant, on pourrait se dire, mais en suivant un homme, est-ce que je ne fais pas une erreur? Et notre Seigneur Jésus-Christ se resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme neige, parce qu'il indique à ses disciples, à ceux qui veulent le suivre, attention, je ne suis pas simplement un homme, je suis Dieu, voilà la preuve, et se transfigure devant eux. Dans le sens mystique, disent les pères en bas de la page 8 sur le polycopier, celui qui, comme nous l'avons dit, s'est élevé au-dessus des six jours, voit Jésus transfiguré devant les yeux de son cœur. Car le Verbe de Dieu a diverses formes, et il se découvre à chacun de la manière qu'il sait lui être le plus utile, sans jamais se dévoiler au-delà des dispositions de son âme. Aussi, l'évangéliste ne dit pas simplement « il fut transfiguré », mais « il fut transfiguré devant eux ». C'est-à-dire Dieu donne à chaque âme les grâces dont cette âme a besoin. Et les grâces sont différentes, parce que les besoins de chaque âme sont différents. Les âmes qui sont découragées, qui ont besoin de plus de sucre que de sel, au contraire, des âmes qui sont peut-être tentées par l'orgueil, qui auront besoin de plus de sel que de sucre. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ donc, s'adapte à chaque âme. Chaque âme est différente. Chaque âme est un royaume, et chaque âme est un royaume différent. Alors il faut vraiment se poser la question, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas voulu se transfigurer devant tous les apôtres? Mais justement pour bien montrer que la première vertu pour voir notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vertu d'humilité. Donc reconnaître qu'on est différent, reconnaître que Dieu donne certaines grâces à certaines personnes et pas à certaines autres personnes. On voit tout le temps dans le monde moderne. On pourrait se dire, mais pourquoi Dieu donne-t-il certaines grâces de lumière à certaines personnes et pas à d'autres? Moi, je le vois tout le temps en tant que prêtre. Combien de fois je suis en contact avec certaines personnes, on explique certaines choses concernant la foi catholique et ils comprennent tout de suite. Non seulement ils comprennent tout de suite, mais ils foncent littéralement. Il faut plutôt les ralentir que les pousser. Il faut plutôt leur dire doucement, doucement, doucement. Et au contraire, d'autres âmes voudraient expliquer les mêmes choses 10, 15, 20, 30 fois. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils n'arrivent pas à monter. Ils restent les deux pieds figés sur le sol d'ici-bas, du monde moderne. Ils ne montent pas vers le bon Dieu. Pourtant, on leur explique la même chose. Et un mystère, c'est le mystère de la grâce, c'est le mystère de la réponse. Réponse de l'homme à la grâce du bon Dieu. La grâce du bon Dieu est toute puissante, mais la toute puissance de la grâce divine travaille avec la volonté propre, la volonté libre de l'homme. Ça, c'est un des plus grands mystères de la foi catholique. Donc, en théologie, on dit que à certaines personnes, Dieu ne donne que ce qu'on appelle une grâce suffisante, et à d'autres personnes, au contraire, il va donner une grâce efficace. S'il donne une grâce efficace à quelqu'un, cette personne va répondre positivement à la grâce. Si la grâce n'est que suffisante, justement, l'âme n'est pas capable de monter vers le bon Dieu. Alors pourquoi Dieu donne-t-il à certaines grâces suffisantes et à d'autres une grâce efficace? Encore une fois, parce qu'il est parfaitement libre. Cette liberté totale de Dieu par rapport aux âmes est quelque chose que le monde moderne a mal fou à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on est tous, en quelque sorte, contaminés par cette idée d'égalité. Il faut tous qu'on soit égaux. Il faut que toutes les têtes soient au même niveau. Et dès qu'il y a une tête qui dépasse, le monde moderne va la couper. Mais Dieu, notre Seigneur n'est pas comme ça, justement. Chaque âme est différente. Chaque âme reçoit des grâces différentes, donc ne cherchons pas à jalouser les grâces qu'une autre personne a reçues. Par contre, ce qu'il faut s'accrocher, il faut s'accrocher au fait que nous savons tous de façon pertinente, de façon absolue, que Dieu donne à chacun les grâces dont il a besoin pour se sauver. Donc quelqu'un ne peut pas dire, moi je me suis damné, je me damne parce que j'ai perçu les grâces. J'ai perçu les grâces, monsieur, c'est votre faute. Par contre, quelqu'un qui monte au ciel ne peut pas dire, J'ai répondu à la grâce du bon Dieu, c'est grâce à mes propres forces que je suis au ciel. Non! Vous montez au ciel, monsieur, c'est parce que le bon Dieu vous a aimé d'une façon toute spéciale. Mais alors, pourquoi le bon Dieu n'a pas aimé d'une façon toute spéciale l'autre âme à côté de moi qui, elle, va malheureusement pas monter au ciel, elle va tomber en enfer? Le bon Dieu aime chaque âme d'une façon toute spéciale. Mais il y en a qui l'aiment plus, exactement comme là, on voit très bien, il aime plus Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres apôtres. Dans l'évangile, Jésus est compris d'une manière simple et ordinaire par ceux qui ne peuvent monter sur la montagne élevée de la sagesse par les saints, sans exercice des entretiens spirituels. Ceux, au contraire, qui sont assez heureux pour gravir cette montagne, ne le connaissent plus selon la chair, mais voient en lui le Verbe de Dieu. Dire plus on monte dans la vie spirituelle, plus on progresse vers la vie unitive, c'est qu'il y a trois degrés, je l'ai déjà expliqué souvent, vie purgative de préparation, vie de purification, vie illuminative pour recevoir la lumière du bon Dieu, et pour mener à la vie mystique ou à la vie unitive. Donc plus on monte vers le bon Dieu, plus la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ se dévoile. Au contraire, plus on reste figé en quelque sorte dans les choses mondaines, dans les choses de ce bas monde, moins on voit la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne voit plus que son humanité. Pour cela que lorsque nous avons devant nous des âmes qui pensent à la conversion, ça arrive souvent grâce à Dieu, eh bien la première chose que ces âmes doivent faire pour monter vers le bon Dieu, c'est se couper des choses matérielles. Couper les choses matérielles, c'est pour ça qu'il est pratiquement impossible, je ne dis pas que c'est impossible, mais pratiquement impossible pour une âme qui a trop de richesses matérielles, qui est trop enveloppée de richesses matérielles, c'est pratiquement impossible pour une âme de ce genre de se détacher de ses richesses matérielles pour monter vers le ciel. Un pauvre qui veut monter vers le ciel, il n'a pratiquement rien à laisser derrière lui parce qu'il n'a rien. Au contraire, un millionnaire qui veut monter vers le ciel, ben, il a beaucoup de choses à lâcher. Rappelez-vous la parabole du jeune homme riche qui voulait suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui avait de grands biens. Ben, il est reparti tout triste parce qu'il n'a pas pu suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, je ne dis pas qu'il faut être pauvre comme les blés, ce n'est pas ce que je dis. Bon, on a besoin, un père de famille, il a besoin de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais malheur aux familles qui sont trop vautrés dans les choses mondaines. Les choses mondaines, l'esprit du monde coupe des grâces du bon Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit du monde pousse à l'orgueil. L'esprit du monde, c'est quoi? C'est les trois concupiscences. C'est la concupiscence des yeux, de la chair et l'orgueil. Et donc, pour monter vers le bon Dieu, première chose qu'il faut, c'est la vertu d'humilité. Pas d'humilité, on ne monte pas vers le bon Dieu, on reste ici-bas. Et il est évident que la vie moderne, si vous voulez, pousse à cet orgueil et en quelque sorte crée autour des âmes une carapace d'orgueil qui fait que l'âme est pratiquement, viscéralement, substantiellement incapable de monter vers le bon Dieu. Et là, on le voit très bien, c'est une parenthèse, mais je pense que c'est une parenthèse importante. On voit très bien avec les nouvelles technologies. Technologie des écrans. L'homme moderne, surtout l'enfant moderne, le jeune moderne, le teenager, l'adolescent moderne, est entouré sous toute la technologie électronique, informatique. Donc c'est le téléphone portable, c'est l'écran d'ordinateur, c'est l'écran de télévision, tout le temps. Et comme tout bouge là-dessus, tout est programmé, si vous voulez, pour nous faire monter là, dans les sphères stratosphérique du matérialisme, eh bien, avec tous ces écrans, c'est quoi? Ça donne une impression, un sentiment de puissance. On a l'impression d'être tout puissant. Par exemple, quand on joue, moi j'y joue jamais, je ne sais pas ce que c'est, mais je vois par exemple ces jeunes qui sont enfermés dans le monde des jeux vidéo. Ça leur donne une puissance artificielle, une impression de puissance artificielle sur le monde. Alors, dans leurs jeux vidéo, je ne sais pas comment ça se passe, je suppose qu'ils peuvent tuer tous les ennemis, jouer les grands matamores et tuer tout le monde autour d'eux de façon artificielle. Mais ça leur donne une soif de puissance. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil qui fonctionne à 300 à l'heure. Et donc, évidemment, tant qu'on est, en quelque sorte, qu'on vit dans ce monde des écrans, on a cette impression de puissance extraordinaire puissance matérielle, de puissance de l'électronique, mais qui nous rend incapables d'apprécier la puissance du bon Dieu. Vous voyez ? Au contraire, si on arrive à couper les âmes de ces jeunes de ce monde des écrans et leur faire découvrir un autre monde, d'abord le monde naturel, et bien à ce moment-là, on peut commencer à lever les yeux vers le ciel. Comment voulez-vous qu'un gamin qui passe 16 heures devant un écran par jour, c'est le cas de certains jeunes, il paraît qu'il y en a qui passent plus que ça, comment voulez-vous qu'un jeune qui passe 16 heures par jour devant un écran puisse penser au bon Dieu? Les jeux vidéo, c'est pas très porté sur la spiritualité. Donc, au contraire, un jeune qui sait, par exemple, s'extasier devant la beauté de la création, beauté des montagnes, par exemple, couvertes de neige en hiver, ou des choses comme ça, la beauté d'un paysage magnifique de forêt, ou tout simplement d'une belle prairie fleurie, eh bien, nous aide à monter vers le bon Dieu. J'ai déjà donné cet exemple, je pense, plusieurs fois en cours, je le redonne ici parce que j'y pense. Ça m'avait beaucoup frappé, moi je suis un alpiniste, bon genre je ne fais plus de montagne maintenant parce que je suis trop vieux avec mes vieux os, mais quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal de hautes montagnes, entre autres j'ai fait le Mont Blanc deux fois, et je me rappelle une fois, arrivant au sommet du Mont Blanc, j'étais tout seul, je le faisais en solitaire, et arrivant au sommet du Mont Blanc avec une vue splendide sur toutes les Alpes, ben, je voyais des jeunes qui montaient au Mont Blanc, avec les écouteurs rivés aux oreilles, en train d'écouter la musique rock en montant sur Mont Blanc. Au lieu de profiter des beautés de la nature, d'écouter le silence de la nature ou les bruits de la montagne, ils écoutaient de la musique rock au sommet du Mont Blanc. Donc ces jeunes-là sont incapables d'aimer le beau. Parce que la nature, justement, nous parle du beau. La nature nous montre, si vous voulez, à la surnature, nous prépare à monter à la surnature. Pourquoi? Parce que la grâce du bon Dieu n'est pas la nature, mais l'élève. C'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Voilà pourquoi, si vous voulez que vos enfants puissent apprécier la transfiguration et commencer à monter leurs âmes vers le bon Dieu pour voir la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ qui se transfigure devant eux, première des choses à faire, c'est les couper un peu du monde moderne. Lorsque je prêche les exercices de Saint-Ignace, la première chose que je suis obligé de faire à chaque fois que je prêche, c'est de confisquer au début de la retraite tous les téléphones portables. Je dis aux gens, il n'est pas question que vous fassiez la retraite avec un téléphone portable dans votre poche, parce que vous allez vouloir le consulter, vous allez vouloir regarder les nouvelles, voir les messages que vous avez reçus, voir ce qui se passe en famille ou dans le milieu professionnel, et du coup vous serez incapable de faire la retraite. Donc je leur dis, ou vous mettez votre portable dans le fond de la valise, vous l'éteignez, on n'en parle plus pendant 5 jours de la retraite, ou vous donnez votre portable, rassurez-vous, je vais pas le regarder, j'ai pas le temps, et je vous rendrai le portable à la fin de la retraite. Le vieux père, l'abbé Vérité, Saint Fred, qui est mort malheureusement maintenant, et lui, il est même plus loin que ça, lui, confisquer systématiquement les portables. Il dit, vous m'amenez tous votre portable, je garde les portables pendant la retraite pour être sûr que vous ne gaspillez pas les grâces de la retraite. Et il disait, si je découvre que vous avez gardé un portable derrière mon dos, même éteint pendant la retraite, vous êtes vidé de la retraite. Je vous renvoie de la retraite. Vous voyez ? Donc, il faut aider les âmes à voir la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, à voir la transfiguration de leur propre âme, comprendre que notre âme a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Première condition pour ça, monter au Tabor. Vous ne voulez pas monter au Tabor, vous voulez rester au pied de la montagne, vous ne verrez pas le bon Dieu, ça c'est sûr que non. Parce que vous allez rester englué dans les choses de ce monde. Ce n'est pas pour rien, encore une fois, que le monde, en quelque sorte, charge notre âme, remplit notre âme jusqu'au plafond, si vous voulez, de choses matérielles. Parce que le monde sait très bien, bien mieux que nous, que tant que l'âme est remplie de choses matérielles, de choses secondaires finalement, il n'y a pas de place pour le bon Dieu. Et donc la première chose à faire, c'est enlever les choses matérielles, c'est ce qu'on fait au début des retraites. Enlever les choses matérielles, couper les gens des choses matérielles, c'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher en ville, il faut prêcher en campagne, couper les choses des choses matérielles, que les gens, les retraitants, pendant les temps libres entre les conférences, en général une demi-heure de temps libre entre à la fin de chaque méditation, voire la prochaine conférence, qu'ils puissent aller se promener dans la campagne, qu'ils puissent aller se promener dans la forêt, qu'ils puissent aller se promener le long d'une rivière, pour justement se débarrasser, nettoyer leur âme de toutes ces choses matérielles. Et c'est ici ce qu'expliquent les pères, en bas de la page 8. Dans l'évangile, Jésus est compris d'une manière simple et ordinaire par ceux qui ne peuvent monter sur la montagne élevée de la sagesse par les saints exercices des entretiens spirituels. Ceux au contraire qui sont assez heureux pour gravir cette montagne du Tabor ne le connaissent plus selon la chair, mais voient en lui le Verbe de Dieu. Plus on monte vers Dieu, plus on voit sa divinité. Et moins on est bloqué par l'humanité. Au contraire, plus on descend vers le monde, plus la divinité s'estompe, et on ne voit plus que l'humanité. Notre belle phrase des pères, c'est devant eux que Jésus se transfigure et non pas devant ceux qui vivent ici-bas d'une vie toute terrestre. Si mon âme est encombrée des choses terrestres, je ne peux plus voir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux devant lesquels Jésus se transfigure deviennent les enfants de Dieu. Ils se découvrent à leurs yeux comme le soleil de justice et ses vêtements deviennent brillants comme la lumière. Ces vêtements sont les discours et les récits de l'évangile dont Jésus est comme revêtu et que les apôtres nous ont conservés dans leurs écrits. Donc cette transfiguration, le visage de notre Seigneur Jésus-Christ qui resplendit comme le soleil, ses vêtements qui deviennent blancs comme la neige, sont une ouverture à la divinité. Alors passons maintenant à la page 9 sur le polycopier. Donc les vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ qui deviennent blancs comme la neige, une blancheur que le foulon ne peut obtenir, ces vêtements du Christ figurent les saints, dont Isaïe a dit « seront pour vous comme un habillement d'honneur dont vous serez revêtus ». Ils sont comparés à la neige parce qu'ils auront l'éclat pur de la vertu que le feu des passions ne pourra plus les atteindre. Vous voyez, la blancheur a toujours été symbole de la pureté. C'est pas pour rien, vous savez, que les hommes qui vivent avec le démon, qui suivent les principes du démon, sont toujours attirés par l'obscurité, par la nuit, par la couleur noire. C'est pas pour rien. Vous me dites, mais vous, monsieur l'abbé, vous êtes toujours avec une soutane noire. C'est vrai, mais ce noir a un sens complètement différent. Le noir de la soutane représente la coupure, justement, d'avec le monde. Mais on le voit très bien, par exemple, chez les jeunes qui sont attirés par cette couleur noire dans laquelle ils se vautrent littéralement pour ne pas voir la lumière. Un jeune du monde moderne qui vit dans le péché jusqu'au cou, on lui présente une lumière, tout de suite il baisse les yeux et puis il ne veut pas voir la lumière. Et c'est pour ça que très souvent, lorsqu'on parle de conversion à un jeune, il faut commencer par, puisque la grâce ne détruit pas la nature, par changer la nature et remettre la nature dans le bon chemin. Une personne, par exemple, qui veut se convertir, un jeune homme, une jeune fille, dans bien des cas, ils doivent commencer par changer leur façon de s'habiller. Parce que justement, le choix de leurs habits reflète la couleur de leur âme. On voit très bien, par exemple, avec des groupes, je ne sais pas si ça existe en France, quand j'étais en Australie, il y avait pas mal de ces groupes de jeunes dans les villes, ils s'appelaient eux-mêmes les gothiques, ils étaient toujours bardés de cuir noir, bardés de chaînes avec des chaînes dans les yeux, dans les oreilles, dans les partout. Et on voyait très bien pourquoi ils aimaient ces chaînes. Ces chaînes représentaient l'enchaînement au démon qui enchaîne ses fidèles. Au contraire, quand une âme reprend l'amour du bon Dieu, elle va se couper de ses chaînes du monde et pouvoir s'élever vers le bon Dieu. Alors, l'évangile nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le verset 3, voici que Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Donc Moïse et Élie sont de chaque côté notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Eh bien, il représente évidemment la loi des prophètes. Donc, Moïse représente la loi, c'est lui qui a reçu la loi divine et 10 commandements de Dieu au sommet du mont Sinaï. Et Élie représente les prophètes, les prophéties. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ apparaît entouré de Moïse et d'Élie pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est celui annoncé par la les prophètes et celui qui est l'auteur même de la loi. Donc plusieurs raisons de cette apparition de Moïse et d'Élie. Donc voilà ces raisons données par Saint Jean Chrysostome, le plus grand père de l'Église grecque. Comme le peuple disait que Jésus était Élie ou Jérémie ou un des prophètes, il paraît, notre Seigneur apparaît entouré des premiers des prophètes, des prophètes, pour montrer la différence qui existe entre le maître et les serviteurs. Donc, puisque Élie et Jérémie sont venus sur la terre pour monter les âmes vers le bon Dieu qui n'était pas encore apparu, monter les âmes vers le Christ à venir, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ apparaît entouré d'Élie et Jérémie pour bien montrer « Je suis ce Christ, dont ce Messie dont les prophètes et les législateurs ont parlé pendant des millénaires avant que j'arrive. » Entre Adam et Ève et notre Seigneur Jésus-Christ, ça coulait à peu près, on ne sait pas de façon exacte, mais à peu près 5000 ans, il y a plus. Donc Dieu a créé les premiers hommes il y a à peu près 7000 ans par rapport à nous. Vous voyez ? Alors, il faut justement bien comprendre cela. Notre Seigneur Jésus-Christ montre cette continuation qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est celui dont l'Ancien Testament a parlé. Les Juifs de l'Ancien Testament étaient sauvés par leur foi au Christ à venir, pas celui qui était déjà venu, pas celui qui était pas un Christ déjà présent, puisque notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas arrivé au début des temps, mais au temps qu'il a choisi. Une fois, il y a des choses magnifiques, je ne peux pas parler de ça maintenant, parce que j'en ai déjà parlé dans le cours de ça sur la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, au début de la tertia pars, dans Saint Thomas d'Aquin, nomme, montre justement la convenance de l'incarnation, c'est la première question de la tertia pars, sur la convenance de l'incarnation, et montre justement pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas apparu tout à fait au début, ni tout à fait à la fin des temps, mais au temps choisi, au bon temps choisi par notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, les Juifs accusaient continuellement Jésus d'être un blasphémateur, un transgresseur de la loi, un usurpateur de la gloire de son Père. Pour établir son innocence sur ces deux points, Jésus fait paraître deux hommes qui ont brillé surtout par leur zèle pour la loi comme pour la gloire de Dieu, car c'est Moïse qui donne la loi et Élie fut un des plus zélés défenseurs de la gloire de Dieu. Donc pour bien montrer encore une fois, je suis celui dont on parlait Adam, Moïse et Élie. Troisièmement, Jésus veut leur apprendre qu'il est le maître de la vie et de la mort. C'est dans ce dessein qu'il fait paraître Moïse qui avait payé le tribut à la mort et Élie qui n'y avait pas encore été soumis. Donc Moïse est mort juste au-dessus de la terre promise. Il n'a pas vu la terre promise. Encore une fois, c'est un grand mystère. Encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur peut-être le million de personnes qui ont quitté la terre d'Égypte et qui ont traversé la terre promise, qui ont traversé la mer Rouge. Seules deux personnes sont arrivées t'es promise, hein. Josué et Caleb, c'est tout. Même Moïse ne l'a pas vu. N'a pas pénétré plus exactement sur la terre promise. Il a vu la terre promise de loin, mais c'est tout. Les pères disent que c'est parce qu'il a eu un manque de foi au moment où il a dû, sous l'ordre de Dieu, de son bâton, frapper la pierre pour nourrir, abreuver le peuple qui mourait de soif en plein désert. Et le texte sacré nous dit qu'il a frappé la pierre deux fois. Alors qu'une fois aurait été suffisant. Eh bien, le fait qu'il ait frappé deux fois montre qu'il n'avait pas suffisamment de foi. Entre autres, il a dû se dire, si vous voulez, une fois c'est pas suffisant, il faut que je frappe deux fois. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de ce manque de confiance en Dieu, n'a pas voulu qu'il pénétra dans la terre promise. Quatrième raison que nous fait connaître l'Évangile, c'était pour dévoiler la gloire de la croix et calmer les inquiétudes et les craintes de Pierre et des autres disciples à l'égard de la Passion. Car comme le remarque un autre évangéliste, il s'entretenait avec lui de sa mort qui devait s'accomplir dans Jérusalem. Donc les apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean vont voir notre Seigneur Jésus-Christ qui parle avec Moïse et avec Élie. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ prépare en quelque sorte le cœur des apôtres à accepter la passion. Il a dit, attention, regardez bien, Je suis Dieu. Vous voyez ? Vous voyez mon visage ? Vous voyez mes vêtements tout blancs, blancs comme le soleil ? Voilà, ceci représente, vous rappelle que je suis Dieu. Dans quelques jours, dans quelques mois, vous allez voir la passion. Je vais être traîné par terre dans la boue. Je vais être couronné d'épines. On va me cracher dessus. On va vociférer sur moi. Je vais être traité comme le dernier des esclaves. Je dois porter ma croix et mourir comme un esclave entre deux bandits au sommet du calvaire. Alors vous serez complètement désemparé, vous serez complètement découragé. N'oubliez pas la transfiguration. Je suis Dieu et je reste Dieu même quand je suis aux mains des Juifs qui veulent me tuer. Donc Jésus se montre au milieu de ceux qui se sont exposés à la mort pour être agréables à Dieu et pour le peuple fidèle. Car tous deux, Moïse et Élie, se présentèrent avec fermeté devant deux tyrans, Moïse devant Pharaon et Élie devant Akab. Donc Jésus fait apparaître Moïse et Élie dans cette circonstance aussi pour exciter ses disciples à imiter les vertus, leurs vertus, c'est-à-dire la douceur de Moïse, le zèle d'Élie. Faisons s'il vous plaît trois tentes. Donc, c'est le texte du verset 4 du chapitre 17. Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Donc Jésus espérait que s'il pouvait s'établir les apôtres espéraient que s'ils pouvaient s'établir sur la montagne, Jésus n'irait pas à Jérusalem, qu'en évitant d'aller dans cette ville, il éviterait en même temps la mort. Car Jésus savait que les scribes tramaient sa perte. Il se confiait encore sur la présence d'Élie, qui avait fait descendre le feu sur la montagne, et sur celle de Moïse, qui était entré dans la nuée pour parler à Dieu. Ils auraient pu ainsi se dérober à tous les regards et à toutes les recherches des persécuteurs. Donc, il faut méditer sur cette belle phrase de l'Évangile en chapitre 17. « Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. » Il faudrait que nos fidèles, quand ils sont dans nos chapelles, puissent vraiment se dire, quand ils rentrent dans la chapelle, « Il est bon pour nous d'être ici. » Voilà. Quand vous rentrez dans la chapelle, où il y a une présence réelle, vous rentrez au manteau d'abord. Au manteau d'abord. Au manteau d'abord. Là, d'un seul coup, avec le tabernacle qui est devant nous, avec la petite lumière rouge qui brûle, le canopé sur le tabernacle qui indique la présence réelle, on est au tabor. Donc notre Seigneur Jésus-Christ se transfigure. Son visage se transfigure, ses vêtements deviennent blancs comme la neige, et il faut pouvoir dire comme les apôtres, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Donc on se prosterne comme les apôtres. On se protège, on fait la génuflexion, on marque cette adoration nécessaire envers notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu et c'est ce qu'il fait. Il s'occupe de nous. Donc, il est bon pour nous d'être ici. C'est-à-dire, je vous en supplie, quand vous rentrez dans les chapelles, dans la chapelle, dans nos chapelles, mais laissez tous vos problèmes de famille, problèmes professionnels, laissez tout ça à la porte de la chapelle. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas s'envoler, ces problèmes, et vous les retrouverez à la sortie. Mais vous serez plus fort pour les porter. Il est triste parfois de voir j'ai vu ça dans certaines chapelles, des gens qui rentrent dans la chapelle, bon, ils font une génuflexion pour le principe, et puis en montant remontant l'allée centrale pour aller à leur agenouilloir, en montant vers le bon Dieu, puisque le bon Dieu est présent sur l'autel dans le tabernacle. Il s'arrête 3, 4, 5, 6 fois pour dire bonjour à monsieur, pour dire bonjour à madame, pour papoter avec mademoiselle, pour papoter avec telle ou telle personne. Dieu, le bon Dieu est devant eux. Ils arrivent au tabor et puis ils parlent avec les gens. Vous voyez ? Non. Comme en fin de messe aussi, c'est parfois douloureux de voir des choses comme ça. Les gens viennent de recevoir le bon Dieu par la Sainte Communion. La messe est à peine finie. Le prêtre vient juste de quitter l'hôtel et déjà les gens commencent à bavarder dans la chapelle. Non. Il faut avoir ce respect, le respect de l'hôtel. Donc le tabor représente aussi le tabernacle. Le tabor représente aussi l'hôtel du sacrifice de la messe, l'hôtel du tabernacle. Quand on est devant Dieu, on doit prendre la position qui correspond à la divinité, à la gloire de la gloire du lieu. donc méditer sur ce beau texte donc de Saint Jean Chrysostome que je viens de vous expliquer à la page 9. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ apparaît avec Moïse et Élie, justement, pour bien montrer qu'il continue, qu'il est celui que Moïse et Élie avaient annoncé. Alors, voici que Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Alors, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. » Il est dans tous ses états, ce pauvre Pierre. Parce que il demande qu'une seule chose, c'est rester ici le plus longtemps possible et contempler la divinité de notre Seigneur. À la vue de la gloire du Seigneur et de ses deux fidèles serviteurs, Moïse et Élie, Saint-Pierre fut tellement ravi de joie qu'il oublie toutes les choses de la terre et qu'il voudrait toujours rester dans cet endroit. Or, si tel fut l'enivrement et le transport de cet apôtre, quelle douceur et quelle suavité de voir un jour le roi des gloires dans toute sa beauté. Si vous avez la foi, mes bien chers frères, quand vous êtes devant le tabernacle, avant le début de la messe, pendant que vous vous préparez pour la Sainte Messe, quand vous êtes devant le tabernacle qui contient la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ avec les hosties consacrées dans le ciboire, mais vous devriez être dans les mêmes dispositions, dans cette disposition de paix, de joie, de tout oublier des choses de la terre, encore une fois, oubliez vos problèmes pour adorer notre Seigneur. Vous voyez ? Tel fut l'enivrement, si tel fut l'enivrement en transport de cet apôtre, quelle douceur et quelle suavité de voir un jour le roi de gloire dans toute sa beauté, et de se trouver mêlé au cœur des anges et de tous les saints. Cette parole de Saint-Pierre, « Seigneur, si vous le voulez, est une preuve tout à la fois de son dévouement, de son obéissance. » Donc pensons à ça, pensez à chaque fois que vous rentrez dans la chapelle maintenant, vous voyez le tabernacle, pensez au tabord. Je monte au tabord. Notre Seigneur Jésus-Christ est là transfiguré. Son visage devient lumineux comme le soleil, ses vêtements deviennent comme blancs comme la neige. On tombe à genoux en adoration. Et apprenez ça aux enfants. Il faut vraiment apprendre ça aux enfants. Vous leur expliquer ce qui s'est passé au tabor pour qu'ils comprennent. Quand je rentre dans la chapelle, je rentre dans un lieu sacré. Attention. Ne cherchez pas. Une remarque un peu bizarre des pères. Intéressant, voilà ce qu'ils disent. Page 9. Ne cherchez pas à lever trois tentes lorsqu'il ne doit y avoir qu'une seule tente, celle de l'Évangile, qui contient le mystérieux abrégé de la loi des prophètes. Si cependant vous voulez trois tentes, n'égalez pas les serviteurs au maître, mais établissez trois tentes pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que ces trois personnes qui n'ont qu'une seule et même divinité n'aient aussi dans votre cœur qu'une seule et même personne. D'accord ? Donc l'erreur de Saint-Pierre, remarque importante des pères, l'erreur de Saint-Pierre fut encore de vouloir établir sur la terre le royaume des élus, que Jésus avait promis d'établir un jour dans les cieux. Il se trompa encore en oubliant qu'il était mortel, c'est pour ça qu'il dit, restons ici, surtout ne bougeons pas, restons ici, faisons trois tentes, il est bon pour nous d'être ici, faisons trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie, je ne veux plus redescendre dans le monde, je veux rester là. Donc il se trompait en oubliant qu'il était mortel, lui et les deux autres disciples, en voulant entrer dans l'éternelle félicité sans avoir passé par la mort. C'est, si vous voulez, Sainte Geneviève, Sainte Marie-Madeleine, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pleure au tombeau parce qu'elle voit le tombeau vide, qui ne comprend pas ce qui se passe, notre Seigneur Jésus-Christ qui lui apparaît, elle pense qu'il est le jardinier, elle ne le reconnaît pas à cause de son manque de foi. Et finalement, notre Seigneur a pitié d'elle, elle va l'appeler par son prénom, Marie. Elle reconnaît à ce moment-là, ses yeux s'ouvrent, elle reconnaît notre Seigneur, rappelez-y maître. Elle se précipite pour embrasser ses pieds, qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ ? Il place ses deux doigts sur son front en disant, ne me touchez pas. Il n'est pas encore possible pour vous de me posséder complètement. On ne peut pas posséder notre Seigneur Jésus-Christ complètement ici-bas, on ne pourra le faire qu'au ciel, pas avant. Donc Saint-Pierre se trompa en croyant qu'il fallait des tentes pour la vie du ciel, où il n'y a nul besoin d'habitation, alors qu'il est écrit, je n'ai pas vu de temple dans la cité céleste Jérusalem, parce que Dieu lui-même est le temple du ciel. À partir de la transfiguration, disent les pères, les paroles du Père, il est mon fils, les apôtres savaient de façon certaine que le Christ était Dieu, mais il cachait sa divinité sous les voiles de la chair, et bien qu'il souffrit et mourut sur la croix, sa divinité ne souffrait pas, ne pouvait pas mourir. S'il pouvait communiquer une telle gloire à son corps, il était capable de la communiquer à la mort. Il était capable de le rappeler à la mort s'il le voulait. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ domine parfaitement sa divinité, eh bien, il va nous aider justement à nous immerger dans cette divinité et oublier complètement toutes les choses du monde. Alors, voyons un petit peu pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a choisi Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. J'ai expliqué ça souvent dans les cours. Saint-Pierre parce qu'il allait devenir le premier pape, Saint-Jacques parce qu'il allait être le premier apôtre à mourir pour le Christ, et Saint-Jean parce qu'il était l'apôtre que Jésus aimait, il était le seul qui n'était pas marié. Les apôtres étaient tous mariés, sauf Saint-Jean. Donc, Jésus prit Pierre en bas de la page 9, sur le polycopier. Jésus prit Pierre pour lui montrer que le témoignage qu'il avait déjà donné de sa divinité était confirmé par celui du Père. Pierre devait voir cela car il allait devenir le chef de toute l'Église. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ prend avec lui Saint-Pierre parce que Saint-Pierre va devenir le premier pape. Il ne l'est pas encore, attention, il va le devenir. Si au moment de la pêche miraculeuse, après la résurrection de notre Seigneur, que Saint-Pierre va recevoir le don d'infaillibilité, il n'a pas encore reçu. Donc, notre Seigneur prie aussi Saint-Jacques, car il va bientôt mourir pour le Christ. Saint-Jacques est le premier apôtre à mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, il prie Saint-Jean, qui était le plus pur instrument de la théologie, en contemplant la gloire du Fils de Dieu, qui n'est pas sujet au temps, pour que Jean puisse déclarer au commencement était le Verbe. Donc Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean sont choisis de façon toute spéciale par notre Seigneur Jésus-Christ, et vous aussi, moi aussi, nous pouvons être choisis par notre Seigneur. En fait, une bonne communion, il faut méditer là-dessus, imaginez que vous assistez à la transfiguration, et notre Seigneur peut-être va nous dire, mon ami, montez plus haut, montez plus proche de moi. Évidemment, on voit notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa divinité, on n'ose pas s'approcher. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous appeler. Montez vers moi. Passons à la page 10. On va avancer. On n'aura pas le temps de terminer toutes ces explications des pères sur les quatre premiers versets du chapitre 17 de Saint Matthieu, bon, qu'est-ce qu'on peut. Page 10. Mystiquement, la présence de ces trois apôtres dénote que Dieu les préférait aux autres en leur faisant contempler cette vision de gloire. Donc ici, une autre explication. Première explication, Saint-Pierre est choisi parce qu'il sera le futur pape. Saint-Jacques est choisi parce qu'il va être le premier à mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint-Jean est choisi à cause de sa pureté. Donc, d'autres explications des pères. Pierre montre la ferveur de la charité. Jean, celle de la virginité. Jacques, le premier à mourir pour ses souffrances, représente le martyr. Donc, Saint-Pierre à la charité, Saint-Jean à la virginité, et ensuite, Saint-Jacques représente le martyr. Donc, voulez-vous voir Dieu? Soyez un Pierre par la fermeté de la vertu, comme un roc. Un Jean par la chasteté. Soyez un Pierre par la fermeté de la vertu, un Jean par la chasteté, un Jacques par la mortification de vos vices. Oui, il y a toutes ces vertus nécessaires justement pour passer d'une vie purgative à la vie illuminative puis à la vie unitive. La foi, la fermeté de la vertu, la chasteté de Saint Jean et la mortification de nos vices par l'esprit de pénitence. Donc la montagne du Tabor, page 10, troisième paragraphe, la montagne du Tabor par sa hauteur représente la gloire céleste. Ça représente le paradis tout simplement. Et tropologiquement, c'est-à-dire moralement, nous enseigne qu'il est nécessaire pour tous ceux qui veulent contempler Dieu de ne pas se vautrer dans les plaisirs inférieurs, mais au contraire, par leur amour des choses supérieures, d'être montés vers le ciel. On a déjà vu ça, c'est vrai que les pères vont y revenir plusieurs fois, se couper des choses matérielles pour voir Dieu. Plus on se coupe des choses matérielles, plus il y a place pour les choses divines. Au contraire, moins il y a place pour les choses divines, moins il y a place pour les choses divines, moins il est possible pour nous de monter vers le bon Dieu. Nul ne peut servir de maître à la fois. On ne peut pas avoir notre Seigneur Jésus-Christ et le monde dans une même âme. C'est impossible. Il faut qu'il y en ait un des deux qui sorte. En général, c'est le monde, le Dieu qui va sortir, parce qu'il ne peut pas accepter de partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Les apôtres sont isolés des autres, car les saints sont séparés des méchants, et par leur foi, en seront complètement séparés dans le monde à venir. Donc ceux qui espèrent le fruit de la résurrection doivent rester dans leurs esprits, sur les hautes places, et se donner à la prière constante. Donc cette approche de notre Seigneur Jésus-Christ représente l'esprit de prière, l'esprit d'adoration, l'esprit de prière. Et on retrouve, en quelque sorte, imaginez, les fins de la messe, imaginez le tabor comme le tabernacle. Quand vous rentrez dans une église, vous pouvez méditer là-dessus, méditer sur la transfiguration. Notre Seigneur Jésus-Christ est là. Donc, il y a Élie, il y a Moïse qui sont là, Élie pour les prophètes, et Moïse pour la législation. Et puis notre Seigneur Jésus-Christ est là. Il est caché. Son humanité est cachée dans le tabernacle. Sa divinité est cachée, mais il est là. Il est là. Et donc je peux voir justement la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son visage qui devient blanc comme le soleil, lumineux comme le soleil, ses vêtements qui deviennent blancs comme la neige. Donc il est évident que si je reste attaché aux choses de ce monde, on ne peut pas s'en tirer. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, il est plus difficile pour un riche de monter au ciel que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille, le trou d'une aiguille. Il y a une petite note ici, au milieu de la page 10, Sainte Hélène construisit une magnifique église sur le tabord de la Transfiguration. Plus tard s'ajoutèrent deux monastères, l'un dédié à Élie et l'autre à Moïse. Avec Élie, était choisi par les carmélites comme étant le patron de l'ordre. C'est ça qu'ils disent, ils ont raison. Les carmélites expliquent que leur ordre a été fondé littéralement à la transfiguration. C'est ça que Saint Élie, le patron des carmélites. Donc le Christ alla dans la montagne pour prier. Et alors qu'il priait, il fut transfiguré pour nous montrer le fruit de la prière. Quand nous prions, nous sommes imprégnés de lumière céleste et donc transfigurés. Et d'ici-bas, nous devenons célestes et divins, et d'hommes, nous devenons anges. Vous voyez, donc par la méditation du tabord, de la transfiguration, on divinise notre âme. Notre âme se rapproche du bon Dieu. Comme si vous voulez quelqu'un qui a froid. Il sort, il arrive de l'extérieur, il est transi parce qu'il fait moins 20 dehors, donc il est transi de froid, il rentre dans la maison, il y a un beau feu qui brûle dans la cheminée, il y a un beau feu qui brûle dans le poêle. Alors il se rapproche. Au début, il ne peut pas se rapprocher trop parce qu'il y a d'autres personnes autour du poêle, donc il est à 2 mètres du poêle, il commence déjà à se réchauffer, et plus il se rapproche du poêle, plus il se réchauffe. Bien, c'est le symbole de cette transfiguration, donc la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus on se rapproche de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa présence divine, plus on réchauffe notre âme. D'homme, nous devenons anges. Moïse était un parfait exemple de cela quand il parla avec Dieu sur le mont Sinaï, que la gloire du Seigneur lui apparut provoquant des cornes de lumière sur sa face. Cet aspect chez Moïse était extérieur, mais chez le Christ, cette gloire était intérieure, provenant de son âme et de sa divinité. N'oubliez pas que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ étaient toujours unies. L'âme et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ étaient toujours unis à la divinité. À tel point que même après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, quand son corps fut déposé au tombeau, depuis la fin de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la résurrection le jour de Pâques, et bien même si son corps et son âme étaient séparés, son âme est descendue aux enfers, où l'âme des patriarches, bon, pour libérer ceux qui attendaient dans ce lieu depuis parfois des milliers d'années, mais son corps va rester dans le tombeau. Eh bien, le corps qui reste au tombeau est lié à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce corps a appartenu, en quelque sorte, à une personne qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Oui, comme il est important, mes bien chers frères, de méditer sur toutes ces choses. Méditer sur toutes ces choses. Et je pense que ce texte de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ au Tabor, eh bien, nous montre en quelque sorte à quel point nous pouvons, si nous nous rapprochons de notre Seigneur Jésus-Christ, notre âme va participer à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus on se rapproche du feu qui brûle, plus on se réchauffe. Et en même temps, plus on voit nos imperfections, parce qu'on les compare à la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus on se rapproche de la lumière, plus une mère de famille qui fait sa lessive, par exemple, et qui examine le drap qu'elle vient de passer à la machine, si elle l'examine dans l'obscurité, elle ne voit pas les taches qui restent. Par contre, si elle se rapproche de la lumière, se met juste sur une forte lumière électrique, eh bien, à ce moment-là, elle va voir toutes les taches. Donc, nous allons terminer par une prière. Avant de terminer aussi, je voudrais vous rappeler encore une fois que j'ai des places encore pour les retraites. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le catalogue des calendriers des retraites sur le site en page d'accueil. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Sainte Madeleine, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.